Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver. Voici donc Samedi en France, épisode 5. Chaque semaine, vous le savez peut-être, maintenant le samedi à 15h sur Europe 1, nous vous faisons découvrir des sites originaux ou des lieux un peu oubliés des grands circuits touristiques, tous situés en France néanmoins, et qui méritent évidemment votre attention, votre curiosité. Alors aujourd'hui, 4 sites, un musée, à mon avis, unique en France, ça se passe à Sète, et puis ensuite une abbaye royale, c'est dans l'Oise, et puis un autre musée très peu connu, celui-là, c'est celui de la Lunette, dans le Jura, et puis on vous invitera à tester. Je dis bien tester, parce qu'il faut y aller, hein. C'est un bivouac sur une île, où ça, au milieu, en plein milieu de la Loire, mais on commence avec un de ces sites hors du commun. Et Gavins Clementerui, c'est le chasseur de sites maison, formé à l'école du guide de routard, s'il vous plaît, dont d'ailleurs il est un des dirigeants. Monsieur le directeur, bonjour. Vous nous emmenez dans la ville de Sète maintenant pour y trouver quoi, Gavins?
Bonjour William, eh ben, je vous emmène en effet à Sète, visiter le MIAM.
Le MIAM, M-M-I-A-M.
Exactement, ça s'écrit pareil, mais c'est un acronyme, l'acronyme de Musée International des Arts Modestes. Alors, le MIAM, c'est un musée pas comme les autres, un musée un peu loufoque, comme
un
je
peu,
les aime.
Loufoque, pourquoi vous êtes un
fou,
peu...
Fou, un non, peu non, beaucoup, un peu beaucoup, vous
moi
avez
je
raison.
Dirais loufoque, mais c'est volontairement loufoque, ils n'ont pas fait ça par hasard, vous
non,
savez,
ça,
sont des créatifs.
Ça fait partie de l'ADN des deux messieurs qui ont créé le
voilà.
lieu, Bernard Belluc ouais. et le peintre Hervé Di Rosa. Ils sont très loin de l'idée du musée poussiéreux et réservé à l'élite.
À une élite, parfois, oui. Alors, vous avez dit les arts modestes, ça mérite une explication?
Alors, les arts modestes, c'est l'art non académique, j'ai
oui.
envie de dire, pour résumer, fait par des gens qui ne sont pas tous des artistes.
Alors, du coup, l'art modeste, est-ce que ça veut dire que c'est un peu d'art brut, un peu d'art naïf, un peu d'art abstrait, je ne sais pas, qui sont tous réunis dans un même endroit, on peut dire ça comme ça?
C'est exactement ça, vous avez bien résumé, William. C'est l'une des originalités de cet endroit qui est vraiment passionnant, dont on ne soupçonne pas la richesse et la diversité. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous.
Oui, mais alors vous n'êtes pas tout seul. Heureusement, on en parle tout de suite avec l'un des fondateurs et artiste peintre lui-même, Hervé Di Rosa. Bonjour Hervé.
Bonjour. Non, la description était très bien. Hein,
ça vous va?
Très, très bien.
Bon,
oui, oui, très, bien,
ben,
très
vous,
bien.
Vous pourrez m'embaucher, je me mettrai à l'entrée, puis j'explique.
Ah oui, ça nous ferait beaucoup de public. Hein. Ça, alors,
ah, oui, voyez, oui, ah, oui, volontiers.
Ça nous ferait une publicité extraordinaire. Vous savez, on est aussi avant tout un musée d'art contemporain. Et ce qu'on veut, c'est que, moi je pense personnellement depuis 40 ans que je pratique ce métier, je suis un artiste contemporain,
oui.
que c'est pas une expression réservée à une élite. Oui. Les artistes même, moi-même dans mon travail, je m'influence tout ce qui est les cultures populaires, de la bande dessinée, des jouets. Oui. Et il y a beaucoup d'artistes depuis les années 50 qui s'influencent des cultures populaires. Et par contre, on met une barrière, une espèce de barrière mentale entre ses œuvres et un grand public dit de néophyte. Vous parlez de grand public, moi je dis néophyte. Et nous, à travers les objets du quotidien et à travers ceux qui ont marqué ces artistes-là, on arrive à faire dialoguer les objets et des œuvres et les gens qui ne connaissent pas forcément
oui.
l'histoire de l'art peuvent avoir une appréhension. Vous voyez, c'est ça l'important.
Non, Hervé, il faut expliquer ce qu'on trouve dans ces vitrines. Il y a de tout chez vous, finalement. C'est foisonnant, on va dire ça comme ça, non?
Vous savez, ce qu'on appelle art modeste, c'est tout ce qui a été un peu méprisé, qu'on ne regarde pas, c'est les marges, les périphéries. Et c'est très bien ce dont vous parliez, parce qu'il y a de l'art modeste. L'art modeste réunit les marges aussi bien de l'art populaire que de l'art contemporain, que de l'art brut, que de l'art naïf dont vous avez parlé. On est vraiment un musée de toutes ces marges-là. Et donc, la partie derrière nous, il y a deux parties dans le musée. Une partie avec des expositions temporaires. Là, en ce moment, il y a une très belle exposition sur le psychédélisme français qui s'appelle Psychédélis. Et on a une partie avec nos collections fixes qui sont les collections de Bernard Belluc, entre autres.
Oui.
Et lui, c'est un monsieur qui collectionne tous les objets des années 50 et 60.
Oui.
Donc, les vitrines permanentes dans ce musée vous font faire un voyage dans le temps. Et là, vous trouvez tout. Ça va de la bouteille de lait, aux publicités, aux boîtes de bananes, aux
oui.
jouets primes. Alors, je ne veux pas trop dire de nom de...
Non, mais ça n'a pas d'impôt. Oui, on peut.
Tous les jouets qu'on donne dans les fast-foods,
oui,
qu'on donne dans les marques de lessive,
très
etc.
Bien.
Toutes ces choses-là qui disparaissent.
Dites à nos amis qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des critères pour faire partie d'un objet de votre musée? Est-ce qu'il y a un jury avec le président Hervé Di Rosa et qui dit, moi, ça mérite d'être dans mon musée?
Bien sûr, parce que sinon, on serait un musée poubelle. On nous propose des tonnes de cartons.
Et
alors
ouais.
déjà... On accepte les donations, mais il faut qu'elles soient nettoyées, répertoriées, inventoriées. L'art modeste, c'est un regard, vous voyez, c'est comme on regarde les choses, comme on regarde les choses de manière différente, enfin, et pas d'antiquitaire académique. Donc tout peut être art modeste, mais tous les objets ne le sont pas. Tous les objets ne le sont pas, parce que par exemple, un porte-clés ne va pas nous intéresser, mais ni le porte-clés vont nous intéresser.
Je comprends.
C'est l'accumulation.
Très bien. Je vous remercie, Hervé, pour cette visite rapide et à bientôt.
Merci à vous, merci à vous, on a besoin, vous veniez tous à 7 et c'est vraiment, je peux le plaisir, un musée ouvert à tous,
oui,
de tous les âges et de tous les critères intellectuels, et même les amateurs d'art pourront y trouver ce qu'ils cherchent.
Et j'invite
merci,
tous
merci,
à visiter. Merci à vous, au revoir Hervé.
Au revoir.
Allez, je vous propose de faire une halte prolongée là-bas, Gavins. Quels sont les jours, parce que ce n'est pas un seul, quels sont les jours de visite?
Alors, on peut aller visiter le musée, le Miam, jusqu'au 30 septembre. C'est du lundi au dimanche, de 9h30 à 19h. Du 1er octobre et jusqu'au 31 mars, là, c'est tous les jours, sauf le lundi, de 9h30 à 12h et de 14h
alors,
à
18h. Comment c'est fait? Il a parlé de vitrines. Ce sont d'immenses vitrines, des cubes. Et dedans, il y a plein d'objets, il y en a partout.
Plein d'objets, tout le monde va y trouver son compte, en fait. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment observer dans tous les coins, dans tous les recoins, du petit au plus grand, on va pouvoir trouver les objets Kinder.
Et si vous y allez, quand Hervé Di Rosa est là, asseyez-vous, mais prenez votre temps, hein, parce que...
On l'a entendu, avec ce petit accent chantant, ça fait du bien.
Mais non, bien, vous savez que c'est un artiste peintre, lui.
Exactement.
Les œuvres de Di Rosa, c'est magnifique.
C'est très, très beau.
Et ça coûte très, très cher. Et dans le monde entier, ce sont des œuvres fantastiques. C'est un des plus grands peintres contemporains français.
Et c'est
le redis.
Comptez 5,60€ pour la visite par personne.
Bon.
Et vous pouvez vous faire aussi une visite guidée. C'est sur réservation.
Je vais éviter le jeu de mots parce que régulièrement dans cette émission, on vous dit qu'une fois que vous avez visité le lieu que l'on vous propose, on peut manger, on peut dormir. Alors, manger avec le Miam, voilà, j'ai fait le...
Allons-y. Vous avez osé ?
Oui, j'ai osé.
Et je vais continuer.
Non, mais je regrette maintenant.
Et je vais continuer, William.
Pourquoi ?
On va aller manger chez Al et Manger. H-A-2-L-E-S, plus
oui,
loin,
c'est le nom d'un restaurant.
Et manger. Ouais, c'est un jeu de mots. En Corse, un restaurant aussi. Décidément, c'est 6 rue de Metz à 7. Mm-hmm. C'est un resto qui est en plein cœur des Halles, comme il porte bien son nom, des Halles de 7. C'est parfait. Alors là, pour la fraîcheur, on ne peut pas trouver mieux.
Okay.
Vous êtes directement du produit au consommateur et vous allez goûter une cuisine méditerranéenne qui est réalisée sous vos yeux. C'est vraiment très sympa. Il y a la bourride que vous pourrez aller goûter. C'est le plat typique de poisson du Sud. Comptez environ 30€ par personne chez Halles et Manger.
Et pour dormir ?
Pour dormir, on a le National. Alors là, c'est à 5 minutes du centre-ville de 7. Il faut compter environ 70€ pour une chambre double. Donc, vous aurez un bel hôtel caché comme ça à l'ombre d'un théâtre à l'ancienne. C'est pas loin du canal de Midi aussi. Il y a même
c'est bien le canal
du
Midi.
Chaud.
Vous savez, les joues de 7. Allez-y à cette période-là, c'est somptueux.
Avec la tielle sétoise après.
Parfait, merci. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur les réseaux sociaux. Même vous faites miam.org et vous avez tout. Dans un instant, on continue la découverte de sites hors du commun. Alors, le prochain n'a absolument rien à voir avec ce dont on vient de vous parler. Ça, c'est du pur patrimoine. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Ça vaut le détour. C'est le domaine... Alors, est-ce qu'on dit Chalis ?
On dit Chali.
Chali. Dans l'Oise, il y a tout ce qu'il faut si vous aimez les belles et vieilles pierres, une abbaye du 12e, une petite chapelle décorée, et tout ça au milieu d'un espace, on dirait un décor de film d'Indiana Jones. Ne bougez pas, on revient.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Avec Gavin Sclemente Ruiz, notre guide du Routard, direction l'Oise. Où ça précisément d'ailleurs ?
Eh bien, je vous emmène à Chali, c'est près de la forêt d'Hermenonville. C'est un endroit que j'adore. On est à 15 minutes au sud-est de Senlis, à 1h15 au nord-est de Paris.
Non mais vous adorez tout de toute façon.
Ouais,
c'est bien pour ça que vous êtes là.
Exactement. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à choisir, ça c'est la difficulté. Mais cet endroit-là, il a un petit supplément d'âme quand je l'ai visité. Ça m'a vraiment plu. C'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui. C'est le domaine de Chali. C'est un peu hors du temps. Et vous allez voir, c'est un peu comme les poupées russes. Il y a plein de surprises. Plus vous avancez, plus vous découvrez des
grand,
choses merveilleuses.
C'est immense. Hein,
c'est immense. Non, ça peut se faire
dans la photo que j'ai, c'est beaucoup plus grand qu'un stade
grand,
de foot. Hein.
C'est grand, mais vous pouvez y passer l'après-midi sans problème.
Oui, c'est ça. C'est ça. Ça s'écrit C-H-2-A-L-I-S et ça se prononce
Chali.
Chali. D'accord. Vous avez parlé de surprises et de poupées russes. C'est-à-dire, expliquez ça.
En fait, quand on arrive devant cet endroit, on a un premier ensemble de vieilles pierres. Vous verrez, ce sont les ruines d'une abbaye du XIIe siècle. Alors, à cette époque, Chali était le centre d'une activité intellectuelle assez dense qui a ensuite décliné. Son abbaye était au centre et a décliné avec. Maintenant, c'est un décor digne d'Indiana Jones, vous l'avez dit, William, où l'on reconnaît assez bien les formes. Alors, il faut se promener, hein. On est au milieu des vieilles pierres, et là, on voit une arche, on voit une voûte, on voit un morceau d'ancienne église.
Mais on comprend bien comment ça fonctionnait à l'époque.
Exactement. Est au milieu c'est de l'herbe, hein, il reste les vieilles pierres qui sont plus ou moins encore en hauteur, comme ça, et on se promène en plein milieu. Les enfants adorent.
Autre surprise, il y a une chapelle que l'on surnomme. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un peu excessif, vous allez me le dire. On l'appelle la petite chapelle Sixtine de l'Oise.
Oui, j'aime bien. C'est justifié parce qu'on est comme à la chapelle Sixtine. Vous savez, on regarde la tête en l'air.
Oui, non,
on
mais
a
attendez,
mal
la
cou.
Chapelle Sixtine, c'est 30 mètres de haut et une circonférence.
On a dit la petite chapelle Sixtine. C'est une petite chapelle, en effet. Et alors, c'est juste à côté des ruines de l'abbaye. C'est vraiment très proche. On trouve cette petite chapelle décorée au XVIe siècle par un peintre du nom de Primatis. On peut voir ces toiles notamment à la Galerie des Offices à Florence, rien que ça, en Italie. Ouais. Et aussi au château de Fontainebleau. Il a œuvré là-bas. C'est vous dire si le bonhomme est important.
Et ça représente quoi? C'est religieux ou pas?
Alors oui, c'est religieux. C'est des peintures qui sont des scènes de la Bible, hein, bien entendu. C'est vraiment magnifique et ça vient juste d'être restauré. Donc là, les couleurs, elles sont éclatantes. C'est bleu, c'est rouge, ça vous saute aux yeux.
Alors la visite s'arrête là parce qu'on a vu les ruines. Là, tout d'un coup, il y a cette petite chapelle. Basta?
Non, c'est là où c'est encore plus sympa. C'est que juste à côté, vous avez une superbe roseraie. Là, en ce moment, c'est vraiment beau. C'est la fin de l'été. Mm-hmm. On a encore le bonheur de ces roses qui sentent vraiment bon, on se promène comme ça, on peut s'asseoir sur le banc et on voit tout l'ensemble du site. C'est une des plus belles du nord de la France, c'est comme ça qu'on l'a classée. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Gardez un peu de force, William, parce que vous avez après le musée Jacquemart-André dans le domaine
Jacquemart-André,
de Chali.
Comme le musée.
Exactement, c'est la même famille. Ils avaient une maison à Paris, un petit hôtel particulier, quand même très joli, dans le 8e arrondissement. Et ils avaient ce domaine-là, dans l'Oise, le domaine de Chali. Ce sont d'anciens bâtiments où vivaient les moines de l'abbaye, juste à côté, qui est aujourd'hui en ruine, qui ont été transformés en château. Et c'est là qu'on découvre la collection de cette femme épatante qui a vécu au 20e siècle, qu'on ne connaît pas assez. C'est Nelly Jacques. Nelly. N-E-N-E-L-I-E.
Attention, oui, c'est pas N-E-2-L-Y.
C'est Nelly.
C'est Nelly.
J'aime bien ce mot, ce nom. C'est le même nom qui a donc
Nelly Jacques-André qui a donné son nom. C'est Boulard Haussmann, il me semble, non?
Exactement, pas très loin.
D'accord. Alors, nous sommes en ligne avec Alexis de Kermel, qui est administrateur général du domaine de Chali. Bonjour, monsieur de Kermel.
Bonjour.
Alors, qui est Nelly Jacquemart-André? Qui est cette femme remarquable dont vient de parler Gavin, tout admiratif?
Nelly Jacquemart-André est née en 1841. Elle est la fille d'un agent électoral, de quelqu'un qui a aidé un député de la monarchie d'Huillé qui s'appelle Monsieur de Batry. Au fond, on connaît peu de choses sur les origines de Nelly Jacquemart, mais on sait que son père a aidé un député à obtenir son siège. Et c'est ce qui lui voudra la protection à la jeune Nelly, de Monsieur et Madame de Batry pendant toute sa jeunesse et de son adolescence, qu'elle va passer en grande partie à Chali, chez ce monsieur et cette madame de Vatry.
Ah bon ?
Ils vont déceler en elle un talent d'artiste peintre. Ils vont lui installer un atelier à la jeune Nelly à Chali. Les Vatry n'ont pas d'enfants et ils ont la particularité de prendre soin à la fois de leurs collaborateurs et des enfants de leurs collaborateurs. Donc, voilà.
On peut dire qu'ils l'ont en quelque sorte un peu adopté, cette Nelly ?
C'est une forme d'adoption. Alors, ils vont avoir une grande affection pour Nelly, déceler en elle ce talent et ils vont véritablement lancer Nelly Jacquemart-André, artiste. Voilà, Nelly Jacquemart à l'époque.
Oui, parce que d'où elle tire son nom, c'était le nom de ses parents, ça, Jacquemart.
Jacquemart, ce sont ses parents. André, c'est évidemment son mari.
Qu'est-ce qu'elle a voulu faire, Nelly, monsieur de Kermel, à l'époque, dans ses anciens bâtiments? Vous avez dit qu'elle était un peu artiste, mais elle les a remplis de peinture, d'objets, de sculptures.
Absolument. Nelly épouse Édouard André, richissime banquier, grand collectionneur en 1881. Ils partagent ensemble ce goût pour la collection. Ils vont travailler d'abord à orner d'œuvres d'art le musée Jacquemart-André, qui est connu aujourd'hui à Paris, 158 boulevard Haussmann. Mais en 1902, après la mort d'Édouard, Chali est à vendre. Elle est en voyage en Inde. ou sur la route d'un voyage en Inde, et elle apprend que Chali est à vendre, et son sang de chacun tour, elle achète Chali, qui lui rappelle évidemment son enfance, son adolescence, et elle va placer à Chali une grande partie de sa collection. Elle va continuer à collectionner entre 1902 et sa mort en 1912.
Ce qu'il faut peut-être expliquer, monsieur de Kemmer, pour terminer, c'est qu'elle voyage beaucoup, elle a les moyens, et elle rapporte de tous ces pays-là un certain nombre d'œuvres, c'est ça, non ?
Vous avez entièrement raison. Alors, elle voyage en Italie, elle voyage en Égypte, elle voyage en Inde, en Birmanie, et de tous ces voyages, eh bien, elle rapporte des œuvres, de la peinture, des objets d'art, ce qui fait qu'aujourd'hui, la collection Jacques Marandré à Chali, tout comme à Paris, c'est une véritable invitation au voyage. Le mot qui peut qualifier cette collection, c'est véritablement l'éclectisme.
C'est ça.
Voilà, on a des œuvres, notamment des œuvres indiennes et birmanes, qui sont tout à fait étonnantes, et des œuvres égyptiennes à Chali.
C'est pas facile de trouver ça, même à Paris, et là, c'est dans l'Oise. Ouais. Je vous invite à visiter cet endroit. Merci, monsieur de Kermel. Bonne journée, à bientôt.
Bonne journée.
Alors, Gavins, des informations sur les visites ?
Alors, on va aller au domaine de Chali du 1er avril au 30 septembre. C'est ouvert tous les jours de 10h à 18h, ou alors du 1er octobre au 31 mars. C'est pendant les week-ends et les vacances scolaires. C'est de 10h à 17h. 10 euros pour rentrer dans ce domaine qui est vraiment hyper riche. C'est gratuit pour les moins de 7 ans. Et n'oubliez pas d'aller faire le tour du bassin après la visite, si vous avez encore un peu de force.
Et le bâtiment dont on vient de parler, là, c'est immense. Hein.
C'est immense. On dit... Moi, à l'intérieur, j'avais l'impression d'être comme dans la Galerie des Glaces.
Oui,
un peu plus petite.
On voit les photos de ça.
Mais on a l'impression comme ça d'être dans un mini Versailles.
Avec des objets qu'on a rarement vus en France.
Exactement. Les Bouddhas qu'elle a ramenés d'Inde et de Birmanie sont absolument magnifiques.
On peut dormir dans le coin ou pas ?
Oui, bien sûr. Il y a le domaine de Cyclone, par exemple, c'est à Baron, à 11 minutes du domaine de Chali. 11 minutes, hein, pas une de plus. C'est dans un joli parc arboré. On est dans une demeure du 18e siècle, si on peut poursuivre la balade. Il faut compter environ 100 euros par nuit avec le petit déjeuner.
D'autres informations sur les réseaux sociaux, évidemment. Dans un instant, un site original dont vous ne soupçonnez peut-être pas l'existence. Si je vous dis, par exemple, monocle, lorgnette, qu'est-ce qu'il y a comme mot qui signifie ça ? Basic. Alors vous me direz lunette et vous avez raison. Alors il y a un musée de la lunette, c'est dans le Jura. On va le visiter ensemble. Et juste après, vous entendrez Patrick Sébastien qui vous racontera la France de son enfance au micro de Daniel Mau.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Dans Samedi en France sur Europe 1, donc, nous rencontrons des personnalités qui comme vous et moi, ont dans le cœur une région qu'ils ont aimée pendant leur enfance et dont ils aiment parler. Ils en sont presque devenus, pour certains, des ambassadeurs. Ça sera le cas tout à l'heure de Patrick Sébastien au micro de Daniel Moreau. Mais pour l'instant, je vous propose avec Gavin Clemente Ruiz, le chasseur de site du Guide du Routard, de partir à Morez, on dit Morez, on ne prononce pas le Z, M-O-R-E-Z, dans un musée, alors, qui est très original. Pourquoi ? Il n'y en a pas beaucoup du même genre, c'est-à-dire, c'est ça, hein, Gavit ?
C'est ça, c'est dans le Jura, c'est en Franche-Comté, c'est à Morez, pour être précis, à 4 km de Morbier. Là, c'est les amateurs de fromage qui vont aimer. Et on est à une heure au sud-est de Lons-le-Saunier. Et là, vous allez découvrir la folle saga des fabricants de lunettes.
Pourquoi vous dites la folle saga des fabricants de lunettes ?
Parce que l'histoire des lunettes à Morez est liée à son terroir, à son eau. Plus précisément à la Bienne qui coule et qui a permis, grâce à l'eau, de travailler le métal. Le verre.
Le verre surtout. Pour faire des verres, il faut beaucoup d'eau.
Et il faut beaucoup d'eau. Et on a travaillé les clous. Pourquoi les clous ? Parce que Pierre-Hyacinthe Cazaux a créé sa première paire de lunettes morésiennes à partir d'un clou. On est à la fin du XVIIIe siècle.
Alors, et depuis cette affaire-là, cette région de Morez est devenue une spécialiste de l'industrie de la lunette.
Exactement. Imaginez, plus de 10 millions de paires sont fabriquées à Morez.
Encore aujourd'hui ?
Et principalement des montures, bien sûr, métalliques.
Alors, pour en savoir un peu plus sur ce musée, ça tombe bien, nous sommes en ligne avec Candice Troxon, directrice adjointe du musée. Bonjour Candice.
Bonjour.
Alors, avant toute chose, racontez-moi l'histoire de la première paire de lunettes avec le clou, là. C'est quoi ?
Une histoire assez simple. Pierre-Hyacinthe Cazaux, qui était cloutier, une belle formation. Il travaillait avec de grandes entreprises. Et puis, finalement, il porte des lunettes parce que ça existe déjà depuis le Moyen-Âge.
Oui.
Et par petit accident, il va casser sa paire de lunettes. À l'époque, problème, il n'y a pas d'optique 2000 au coin de la rue. Donc, il va falloir trouver une solution. Et cette solution, c'est d'utiliser un fil de clou qu'il sait parfaitement manier et de recopier en fait ce modèle cassé. Et il va mettre au point comme ça le premier modèle métallique à Morée et en soi le premier modèle français.
Ah, d'accord. Et du coup, Morée est resté pendant de nombreuses années, peut-être encore aujourd'hui, des spécialistes de ces montures en métal ou pas ?
Alors complètement, Morée, sa spécialité, c'est la monture métallique. Alors pendant des décennies, hein, ça a été vraiment la spécialité. Avec l'arrivée du plastique, ça a un petit peu changé. Mm-hmm. Il a fallu travailler en collaboration avec Oyonnax, la vallée de la plasturgie qui se trouve pas très loin d'ici.
Ouais.
Et ils ont redonné un petit élan de création à la lunetterie en travaillant à la fois le métal et le plastique.
Mm-hmm. Quand on rentre dans le musée, là, on a devant nous combien d'objets, combien de paires de lunettes et de quelle époque alors ?
Alors, on n'a pas que des paires de lunettes parce que le musée va présenter cette industrialisation de Morée avec son histoire, les clous, l'horlogerie, les mailleries. On va avoir le travail de ces lunettes, donc les machines, et on va avoir l'histoire de la lunette qui va être retracée avec plus de 300 objets qui datent du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui.
Ah, d'accord. On m'a parlé d'une collection, et là, on va citer des noms bien connus, des gens qui portent des lunettes, pas qu'il y a la collection Essilor et Pierre Marly. Ça me rappelle quelque chose. De qui s'agit-il et de quoi s'agit-il ?
Alors en fait, le groupe Essilor a racheté dans les années 2000 la collection d'un monsieur qui s'appelait Pierre Marly.
Eh oui.
Ce Pierre Marly, alors il n'est pas très connu comme ça, mais dans le monde de la lunette, c'est une vraie star. Puisqu'en fait, c'est un créateur linétaphile. Il est créateur parce qu'il a fait notamment un modèle qui a été porté par Audrey Hepburn dans le film Charade.
Oui.
Et à partir de ce moment-là,
toutes
les stars vont
emporter. Un peu ovale, noir, je me souviens, qui lui mangeait
exactement.
Un peu le visage. Elle était magnifique. Oui, oui.
Alors, un modèle qui a été fait à l'origine pour les conducteurs de bus marocains, mais qui ont fait finalement toute la folie de la création Pierre Marly. Et à partir de ce moment-là, de grands noms vont porter ces créations, puisqu'on en connaît des très, très célèbres, notamment un modèle blanc rectangulaire qui va être porté par un grand chanteur français.
Vous avez dit tout à l'heure la linétaphile. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Linétaphile. Alors, linétaphile, c'est collectionneur de l'optique. Le monde de l'optique, c'est un monde bien large. Hein. C'est la lunette, mais c'est aussi les instruments d'optique, les longues-vues, les microscopes, toutes ces petites choses qui nous rappellent l'œil. Hein, c'est le travail scientifique aussi, les gravures, tout ce qui va nous ramener à ce sens de la vision.
Oui, mais ça vit tout ça, parce que ça reste dans le coin une industrie florissante, non ?
Complètement. Morée, c'est toujours reconnu hein, sur la scène internationale, avec de très grosses entreprises encore présentes sont encore bien connues et qui ont une production très importante.
Bon, parfait. Eh bien, j'espère que vous aurez des visites supplémentaires pour ce musée. Merci Candice Troxon, merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Au revoir. Il y a aussi des expositions temporaires, vous allez voir dans ce musée, c'est le cas en ce moment, Gavin ?
Exactement, jusqu'au mois de mai prochain, il y a une exposition qui est intitulée l'excentrique collection de Monsieur Landolt, un linétaphile, donc maintenant on sait ce que c'est.
Linétaphile.
C'est joli. Hein.
Ça c'est bien pour des jeux à la radio ou à la télé. Qu'est-ce que c'est qu'un linétaphile ?
Ou pour les mots croisés, les mots fléchés. Alors ce Monsieur Landolt, il a fait don de 1400 objets liés aux lunettes. Et on va voir par exemple une pièce rare, plusieurs pièces rares de la Renaissance. Profitez-en, il y a visite du mercredi au dimanche de 14h à 18h et c'est tous les jours de 11h à 19h en été. Il faut compter environ 6€ pour les adultes et 4€ pour les enfants.
Si on va dans cette région, on mange, on dort, on fait quoi ? À quel endroit ?
On mange.
Morbier, oui.
On n'est pas très loin. Donc on va aller visiter la fromagerie de la Route Royale à Morbier, on peut y faire le plein de Morbier et de Comté aussi.
Vous aurez des informations supplémentaires sur les réseaux sociaux, bien sûr, et Europe1.fr également. Et comme nous le faisons chaque samedi, sur Europe 1 évidemment, à 15h, nous réservons une place pour les souvenirs, souvent attendris, de personnalités que vous connaissez bien et qui vous parlent de leur amour pour une région, pour une ville, pour un lieu. Alors cette fois-ci, c'est Patrick Sébastien qui vous raconte ses souvenirs d'enfance au micro de Daniel Moreau, des souvenirs qui vont nous amener dans un petit village de Corrèze. Et tout cela s'appelle la France de mon enfance.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Patrick Sébastien.
Bonjour mademoiselle.
J'ai envie que vous me décriviez l'endroit où a grandi le petit Patrick Bouteau.
Oh, il a grandi au fin fond de la Corrèze, dans un village magnifique qui s'appelle Juillac, qui est situé à peu près à une trentaine de kilomètres de Brive. Et c'est un petit village très agréable. J'ai grandi dans une petite maison à côté de la place de l'église. Et j'ai des souvenirs formidables de là parce que Bah, le périmètre de jeu, une fois que l'école était terminée, c'était les champs qui étaient plus loin, c'était les petites rivières. On partait tout de suite dans la nature, quoi.
Et alors, il y a eu un besoin vraiment de revenir, parce que vous habitez pas très très loin de cet endroit dont vous êtes originaire.
J'y reviens très très souvent, parce que d'abord, au cimetière de Juillac sont enterrés tous mes proches. Et donc, je fais souvent des balades. Et puis, j'aime bien revenir et retrouver la petite place qui était à côté de ma maison, qui est au démarrage de tout, en fait, puisque je m'asseyais sur un banc pour regarder à travers la vitrine du marchand d'électroménager la télévision. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la télé. Donc, je regardais ça en mitouflé les soirs d'hiver, sans le son. Et c'est comme ça que j'ai vu mes premières émissions de télévision et que c'était magique, quoi. Voilà, dans ce petit village où c'était les années 50, je suis né en 53. Et il y avait le sabotier à côté, il y avait où je passais beaucoup de temps. Et la campagne était toute proche, toute proche, toute proche. Donc c'est des souvenirs magnifiques de tout ce qui se passait dans ces campagnes-là, des marrons l'hiver, à l'automne, à l'école on dessinait les feuilles des platanes. Il y avait les vendanges où on foulait le raisin au pied dans les comportes. Enfin, il y avait tout ce folklore de la campagne des années 50, avec ce village qui est un petit village un peu perché, mais auquel je tiens beaucoup, oui, puisque j'y ai passé les plus belles années de ma vie.
Et alors aujourd'hui, c'est plutôt, c'est le Lot, c'est Martel, et je crois que c'est une, on la surnomme la ville aux 7 tours, donc est-ce que vous pouvez nous donner envie de...
Ouais, je suis tombé très amoureux, je me suis installé là-bas en 78, donc ça fait très très longtemps que je suis lotois, finalement, et ça s'appelle la Terre des Merveilles, et c'est pas pour rien, je suis à Martel, la ville aux 7 tours, effectivement. Et autour, il n'y a que des merveilles. Il y a Rocamadour, il y a les grottes de la Cave, il y a Padira qui n'est pas très loin, puis il y a la sublime vallée de la Dordogne, dont l'écrivain Miller disait que si la France disparaissait, il resterait la vallée de la Dordogne. Donc c'est un village très très attachant, où on mange bien, où les gens sont gentils, où j'ai la chance d'avoir trouvé un endroit où j'ai la nature devant les yeux, en permanence. Et c'est vraiment une région à visiter, mais il y a beaucoup de visites. Et en plus, dans mon village, dans Martel, il y a un petit train touristique qui reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, où les gens font le longe la vallée de la Dordogne en petit train. C'est très, 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 très chouette. Vraiment très chouette. Je suis très attaché. Je suis attaché au point que si je passe une semaine sans descendre, j'ai le mal du pays. Voilà.
Là, j'y suis déjà dans ce petit train. Vous m'avez vraiment donné envie. Et le petit Patrick Bouteau sur la place de son village, il regardait notamment la piste aux étoiles. Et ça, c'est le prolongement, c'est le plus grand cabaret. Donc, vous partez sur les routes, là.
C'est le plus grand cabaret du monde. Ouais, ouais, qui va partir. Mais même le prolongement, c'est les petits cirques qui passaient aussi dans le village. Mon premier contact avec le cirque, c'est un petit cirque, et comme la vie n'était pas facile, c'était une fête formidable. Et donc le prolongement, c'est de partir sur toutes les routes. On part le 30 octobre, on finit le 31 décembre à Genève, et on fait toutes les grandes salles de France avec un spectacle magnifique. On est 80 sur la route, on est 50 artistes sur scène. C'est le plus grand cabaret du monde tel qu'il était à la télé, comment est interdit de faire, et que je vais apporter aux gens chez eux. Voilà. Donc c'est un spectacle féerique.
Et je crois que vous allez encore apporter du bonheur. Merci beaucoup Patrick.
Merci à vous et continuez à apporter du bonheur aussi aux gens.
Merci Patrick, merci beaucoup Daniel. Il ne manque pas de rappeler qu'on m'a interdit de faire. Non, vous vous rendez compte? C'est comme un cirque, comme autrefois, ils se déplacent avec des roulottes. Ils sont 50 sur 7, c'est incroyable. Bon, la semaine prochaine, nous serons avec André Dussolier, qui est à l'affiche d'un très beau film de François Ozon en ce moment et qui vous emmènera, alors lui, sur les traces de son enfance, c'est en Savoie. Dans un instant, dernière étape de notre émission, c'est une expérience en plein air, comme on le fait à chaque fois, tous les samedis sur Europe 1. Aujourd'hui, on vous conduira sur une île déserte, un peu déserte, située sur la Loire. Et vous ne saviez peut-être pas qu'il y avait des îles sur la Loire. Alors qu'est-ce qu'on y fait? On y mange et on y dort. Alors vous allez voir, c'est assez cocasse.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Comme nous le faisons désormais tous les samedis ici sur Europe 1 dans cette émission, on vous emmène dans la nature, une expérience originale. Alors, des paysages que vous ne connaissez pas, ou alors vous êtes passé devant mais vous n'êtes pas arrêté. Il y en a très nombreux en France et dans toutes les régions. On va s'attarder sur les moins connus. Et le chasseur de sites, routard infatigable, Gavin Clemente Ruiz, a choisi un fleuve Et pas n'importe lequel. Celui-là, c'est le fleuve master en France.
Le fleuve royal. J'ai choisi le plus grand. La Loire, bien nommée. Et ce n'est pas pour y naviguer, c'est pour y passer une nuit, William.
Une nuit sur le fleuve, oui.
Dans un bateau. Comme ça. On est comme ça dans cette bien France. Pas dans un bateau, sur une vraie île. Une île qui se trouve en plein milieu du fleuve de la Loire.
Il y en a qu'une ou il y en a plusieurs?
Il y en a plusieurs, en fait. On ne le sait pas assez. Et c'est mon fils aîné qui m'a donné envie de tenter l'expérience. En fait, il n'arrêtait pas de me dire « Papa, j'ai envie de dormir sur une île déserte. »
Oui, je vous rappelle que lui, quand il disait ça, il pensait plutôt aux Maldives. Hein, dans genre, comme ça, on va se balader avec papa, maman, et toute la famille. Eh ben non.
Je lui dis, mon fiston, tu vas voir. Je vais essayer de relever le défi. Et donc, j'ai cherché. Mmh. Et ben, je ne suis pas allé si loin que ça. Hein. C'est en plein cœur de la Loire. Et j'ai trouvé la solution grâce à la rabouilleuse.
Qui est cette personne?
À la base, c'est un roman.
Non, mais vous voyez, je voyais assez bien ça de
Victor
Hugo. Oui, mais alors, il y a la rabouilleuse.
C'est une association, la rabouilleuse. Ce sont des irréductibles amoureux de la Loire qui sont allés s'installer près de Vouvray à Rochecorbon. C'est à 25 minutes de Tours en voiture. Et là, il y a une association. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. On a envie de passer.
Quand on est là-bas, on est sur la terre ferme. Et puis alors, on fait quoi là?
Eh bien, quand on est là-bas, on monte à bord de tout sablière.
Alors, qu'est-ce que c'est tout
sablière, ce sont des bateaux en bois qui autrefois permettaient d'extraire le sable.
On dit
de
une
la Loire.
Toux.
Une toux.
T-O-U-E.
E, exactement.
Une toux.
Une toux. Une toux sablière. Non, pas comme ça.
Genre, on ne l'a jamais faite, celle-là, dans
pardon,
le coin.
Pardon, excusez-moi. C'était pour rigoler. Karine, Clément, Samuel, ce sont les fameux irréductibles de la rabouilleuse qui ont reconstruit deux de ces bateaux.
C'est grand, hein, une toux.
C'est énorme.
C'est immense.
On peut être à plusieurs dessus. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vraiment, on peut y passer un bon moment.
Et c'est eux qui les ont construits avec les plans d'époque.
Avec du bois. Et ils ont rajouté du métal pour que ce soit un peu plus résistant. Et ils ont ajouté un mât de 10 mètres et une superbe voile. On part comme ça avec eux. Et là, ils déploient la voile. Quand il y a un petit peu de vent, c'est magnifique.
Et tout le monde est à bord, bien sûr.
Exactement.
D'accord. Et alors, on fait quoi une fois qu'on est à bord?
Eh bien, on se balade, tout simplement, sur la Loire, une heure trente. C'est en fin de journée, comme ça, quand le soleil décline, s'il y a du soleil, mais souvent il y a du soleil au bord de la Loire. Et on est avec l'un des bateliers, Clément ou Samuel, et là, ils vous racontent la vie de la Loire.
Ah, oui.
Et ce sont des vrais amoureux de la Loire. Ils vous racontent où nichent les oiseaux. Ils connaissent presque les nids les uns après les autres. Ils connaissent presque les oiseaux par leur prénom. J'exagère à peine. Ils racontent plein d'anecdotes et on va comme ça découvrir toute la vie de cet écosystème qu'est la Loire, qui a une vraie vie. Et on va découvrir les châteaux aussi qui longent la Loire. Mmh. Il y a un manoir aussi où a été tournée La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Il y a plein d'autres endroits qui vont vous faire découvrir pendant la balade.
Mais il y a suffisamment de vent pour déplacer un bateau dont vous dites qu'il est assez conséquent.
Assez costaud. Ouais. Ben sinon, ils poussent. Hein. Ils prennent le bâton et ils poussent. Il y a un moteur aussi, hein, si besoin. Et on peut y aller soit par le biais mécanique, soit par le biais...
On pigouille alors.
On picouille. C'est ça.
En Bretagne, ça s'appelle, il me semble, pigouiller. Hein, et on remue derrière.
C'est ça.
Et on s'arrête, on accoste, on fait. Ben, y a Lille, elle est où là?
À un moment, Clément ou Samuel, ils vous disent tiens, c'est là. Et là, vous voyez une espèce de tas de sable. Hein,
oui.
Un gros.
Non, mais c'est grand comment?
Ça fait un kilomètre de long.
Ah oui,
il y a des arbres. Il y a des arbres quand même.
Ah,
et là,
c'est
ils vous
pas
disent,
pelé.
Eh ben ça va, c'est quand même assez costaud. Vous êtes à l'abri quand même hein, quand vous vous accostez sur cette.
Ah non, je voyais un tas de
déserte.
Ça. Oui, mais c'est ça, mais je voyais pas de végétation. Il y a de la végétation.
Il y a de la végétation quand même. Il y a un peu de sable hein, quand même. Quand vous arrivez, vous mettez les pieds dedans, vous voyez bien. Hein, mettez des chaussures un peu défraîchies. Et là, vous allez arriver sur cette île d'un kilomètre sous la végétation. On débarque assez vite. La nuit tombe et là, on commence à sortir les cantines en métal et on installe le camp.
D'accord, on va y revenir. Juste un mot avant avec Clément Cirque. C'est l'un de ceux hein, qui propose cette aventure.
Exactement.
Dont vous venez de parler. Bonjour Clément.
Oui, bonjour.
Alors dites-moi, d'après la description de Gavin qui a été sur place, vous voulez prouver, j'ai l'impression, vous devez me dire si mon sentiment est réel, que cette Loire et ces îles-là, ils sont tous bien vivants et parce que ça change tout le temps. Est-ce que c'est vrai ce que j'imagine ?
Oui, ce qui est certain, c'est que la Loire nous offre un paysage qui est devenu rare, qui est celui d'un fleuve naturel, avec avec des rives qui vont être mouvantes et avec des îles qui peuvent se former. Et c'est vrai que ça nous offre un terrain d'aventure assez, assez incroyable.
D'accord. Mais tout le monde peut faire la balade et le bivouac, je veux dire, les enfants comme les parents, quoi, de toute la famille éventuellement.
Oui, alors bon, bah, il s'agit effectivement d'accompagner les gens, puisque c'est un fleuve qui, comme il est naturel, a aussi toute sa... une diversité de milieux et des zones plus ou moins dangereuses, plus ou moins accueillantes. Donc, faut un tout petit peu apprendre à appréhender ce fleuve.
Ah oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. C'est pas peinard, quoi. Il y a une petite aventure, quoi.
Bah, il y a une petite aventure, puis c'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, on a l'habitude d'emmener des familles, des enfants. On essaie de limiter évidemment le nombre.
Hein. Alors, c'est-à-dire
nos bateaux, c'est 12 personnes hein, sur nos bateaux. Pareil sur les bivouacs, bien distingué du camping. Hein, c'est-à-dire qu'un bivouac, on s'installe le soir, on démonte le lendemain matin. Et en laissant aucune trace, évidemment.
J'espère bien. Voilà. Est-ce que c'est la bonne saison, là, l'automne, en ce moment, pour y aller ?
Bon, toutes les périodes, le printemps, été, automne.
Non, mais c'est pour me dire, on n'a rien loupé, on peut encore y aller, quoi. C'était ça, la question.
Oui, bien sûr. D'autant que l'automne, c'est vraiment une période incroyable sur le fleuve, puisqu'on a les couleurs
c'est
du
ça.
Feuillage.
Ça voilà. change tout le temps. Il y a des animaux, parce que je vois, maintenant, il y a de la végétation. Là, je regarde sur une photo qu'on vient de me passer. Effectivement, y a, c'est comme une forêt, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des animaux, du coup, là, ou pas ?
Ah bah bien sûr, oui, mais c'est tout l'intérêt hein, de se rapprocher du milieu et donc des arbres et des animaux qui habitent ces espaces. alors le tout, c'est de trouver le bon endroit pour se sentir bien aussi, entouré, d'accord. mais oui. sécurisé. Mais oui. C'est vrai que voilà, il y a des sangliers, il y a
du
chevreuil, il y a des renards. Oh. Voilà, mais tous ces animaux ont tellement peur de nous que c'est pas en général un vrai problème. Faut vraiment aller les chercher pour les trouver.
D'accord. Merci beaucoup Clément pour la petite visite et bravo pour cette excellente idée très originale.
Merci
à bientôt. Au revoir, Gavin. On est sur l'île. On est protégé de la pluie parce qu'il a dit bivouac, il faut pas confondre avec camping.
Oui,
c'est-à-dire quoi, il y a une toile. Quand même.
Exactement. Quand Clément nous fait débarquer sur l'île, il installe avec vous la toile. Tout est bien protégé. Vous avez juste la toile et tout est ouvert autour de vous. Donc vous êtes vraiment en immersion totale dans cette nature. Il a parlé des sangliers quand il a dit ça à mon fils. Mon fiston a un petit peu eu peur. Et donc toute la nuit, on a attendu le sanglier quasiment. Il y a les castors aussi. On entend les queues des castors qui claquent, claquent, claquent comme ça toute la nuit. Vous permettre de rythmer les heures qui passent doucement.
Alors, il y a une toile, oui, mais c'est pas fermé devant, comme dans une toile de camping.
C'est vraiment, il pose des pieux
et la toile au-dessus.
Exactement.
Et donc, vous êtes en plein air, donc pensez à prendre une petite laine et un sac de couchage. Alors, après, on fait un feu de camp et on passe un coup de fil à Hugo Frey.
presque. Allô, Hugues
c'est ça. Mais il vient, il prend sa guitare.
Oui, carrément.
Santillano, etc.
Arrêtez, tout le monde va croire.
On peut
mettre une petite musique sur son téléphone éventuellement le soir, tout est prévu, vous inquiétez pas.
Cet homme remarquable qui a 90 ans, vous lui proposez le truc là, il dit je viens.
Mais je pense qu'il peut venir.
venez,
on vous attend. Alors, vous verrez, tout est prévu pour la soirée, il va adorer, il y a un repas.
Mais qui est-ce qui amène le repas,
c'est vous, avec quand vous êtes dans le bateau, avec Clément, quand vous débarquez.
Non mais c'est Clément qui l'a prévu
avec Karine et avec Samuel
en
amont.
C'est pas nous qui faisons la...
Non, tout est vraiment prêt. Alors, vous pouvez venir avec votre repas, mais c'est quand même des produits...
Non, mais c'est prévu dans le prix de la balade.
C'est prévu dans le prix de la balade. Et c'est que des produits locaux qui sont vraiment super, avec des producteurs.
Et c'est
juste
combien
à côté.
Tout ça
En tout, il faut compter 34 euros par personne. On peut aller jusqu'à 15 personnes. Et tout est prévu. La balade, la nuit, le montage de la... Parce que c'est quand même costaud hein, pour monter votre toile. Oui, vous allez voir. J'ai essayé et il vous apprend à faire du feu aussi. Là, mon fils était hyper impressionné parce que j'ai réussi à l'allumer tout de suite. Bon, Clément m'avait donné 2-3 tuyaux avant. On coupe son bois aussi parce qu'il faut l'alimenter. Après, les castors nous ont un peu aidés aussi.
Ok. Si vous voulez une version illustrée, parce qu'il ne vous a pas raconté ça par hasard, Gavin, vous retrouverez son reportage, c'est lui qui l'a fait, dans Routard Magazine. C'est le numéro combien, ça ?
Numéro 2.
Numéro 2. J'en profite également pour vous signaler que jusqu'à demain soir, se tient le 10e, là-bas, hein, le 10e festival de Loire. Et là, ça se passe à Orléans. Alors, c'est le plus grand rassemblement de la marine fluviale. C'est un événement à pas manquer si vous êtes dans le coin. Voilà. Gavin, pour terminer, on récapitule rapidement les quatre sites du jour.
Alors, aujourd'hui, nous sommes allés visiter le MIAM, le Musée international des arts modestes de Sète. Nous avons été éblouis par le domaine de Chaly dans l'Oise. Grâce au musée de la lunette à Moret dans le département du Jura, nous sommes devenus incollables sur les lorgnettes et autres bésicles. Et je vous ai fait partager mon bivouac en famille sur une île déserte de la Loire.
Alors, on termine comme on le fait, on essaye à chaque fois, mais on y arrive, hein, trouver un livre qui parle de la France, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Là, ça s'appelle « L'éternelle route Napoléon ». Là, on a compris de quoi il s'agissait.
Oui, à peu près. Oui, c'est signé Jean-Paul Nadéo, c'est chez Grunt. Ça coûte 24,90 €. Alors, c'est l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon. Et ce livre, eh ben, il reprend l'itinéraire de Golfe-Juan jusqu'à Grenoble, que l'empereur a emprunté à son retour de l'île d'Elbe. Il y a 5 départements qui sont traversés. C'est l'occasion d'en visiter et d'en découvrir un certain nombre. Il y a plein de photos, il y a plein d'astuces aussi si on est à moto. J'ai bien aimé ça, si on a envie. C'est très à la mode, ça, les road trips à moto. Les mototrips, d'ailleurs. C'est un très bon livre aussi pour faire un road trip historique.
Aussi historique, voilà. C'est la fin de cette émission. Vous retrouverez toutes les infos nécessaires à la visite de ces quatre sites que nous vous avons proposés sur europe1.fr. Merci à Marie Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau et Gavin Clemente Ruiz. Rendez-vous samedi prochain, 15h, pour 4 nouveaux sites. Et restez avec nous parce que dans un instant, vous allez retrouver Stéphane Bern et Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre. Bon après-midi sur Europe 1.